Le commentaire de
Steve Fortin, déposition pas comme les autres.
Si on choisit collectivement d'abandonner, il y a un prix à payer pour ça. Si on choisit de s'écraser, si on choisit de s'allonger, le monde, ils vont s'essuyer les pieds sur nous autres. Puis les peuples qui meurent, ça meurt longtemps. Puis c'est douloureux, puis ça fait mal. Fait que si vous décidez d'abandonner, ça va être bien long, puis bien tough. Vous avez besoin d'être tough.
Ça, c'est Pierre Falardeau. On se souvient de lui. Je me souviens aussi d'une phrase. On disait, les gens sont fatigués. Vous savez, la bataille référendaire, la bataille constitutionnelle, sont fatigués. Puis il avait dit, si t'es fatigué, va te coucher. Steve Fortin, salut.
Je réécoute cette entrevue-là une fois de temps en temps pour essayer de comprendre là où on est. Parce que dans cette entrevue-là, tout le monde en parle, 2008. Ça fait déjà longtemps, hein, 2008. C'est hallucinant la clairvoyance de Pierre Falardeau. Dans la même entrevue, à un moment donné, Guillaume Lepage, c'est une excellente entrevue qu'il avait fait Guillaume là-dessus. Et là, il lui parle du vote ethnique, c'est parce qu'il venait d'écrire une chronique sur le vote ethnique, puis il s'était fait ramasser. Puis là, à un moment donné, Pierre Falardeau, avec la verve qu'on lui connaît, il dit, ben c'est ça, on peut même pas parler d'immigration. Puis le vote ethnique, il dit, quand le conseil juif canadien a appelé à voter non, puis il vote à 98% pour le non, tout ça, puis explique la notion de vote ethnique, puis il dit, oui, oui. On va se mettre à parler d'immigration, puis on va se faire traiter de raciste, puis de xénophobe, puis tout ça, en 2008. On est-tu là-dedans en ce moment? On est deux pieds là-dedans.
On est là-dedans, tabarnouche. Puis écoute, oui. Là, quand tu vois, là, je reviens là-dessus, mais Dominique Anglade, qui commence son allocution en anglais, Louis Lacroix, l'as-tu mis à sa place? Eh boy!
Exactement. Oui, puis il a bien fait, mais regarde ce qui se passe. De toutes ces questions-là, l'espèce de dynamique politique, dynamique sociale politique dans laquelle on est en ce moment au Québec, on est là-dedans. Puis quand Pierre Falardeau dit si on se tient pas debout, si c'est ben les gens vont s'essuyer les pieds sur nous autres. Tu sais, il me semble que y a rien d'extrémiste dans le fait que la minorité francophone québécoise, parce que tu sais, on est une minorité francophone là, sur le continent. On sera jamais majoritaire nulle part. Même chez nous, on dit qu'on est majoritaire au Québec, mais quand on regarde la situation du français, c'est une lutte qui est perpétuelle. Il y a rien d'extrémiste dans le fait, par exemple, que Simon-Jolin Barrette dise on va prendre 5 millions puis on va renforcer les capacités qu'on a de protéger notre langue. Et quelques jours après, François Legault, son nouveau projet de loi de 66, il y a combien de dizaines de millions pour les institutions d'enseignement anglophone là-dedans? Et ce qui se passe là, c'est que on voit la dynamique qui s'installe. Moi, je le vois là quand je regarde les commentaires, je regarde un gars comme Sugar Sammy là qui carrément se moque des Québécois. OK, on n'est plus dans la joke, là. On est dans le militantisme pur jus.
Tout à fait.
Il se moque, il fait du millage là-dessus, il se rit de ça, puis il se dit ben tiens, voilà, regarde mon dernier show là, hier, c'était ça, mon dernier show s'écrit tout seul. Il se moque des Québécois comme moi, comme toi, comme tant d'autres qui s'inquiètent de ça la langue, puis il se dit ben c'est ça. De toute façon, les Québécois vont acheter des billets pour mon show, puis je vais pouvoir leur rire à la gueule quand même, je
veux dire. Non, mais le pire, c'est qu'il est en France, premièrement, et s'il peut parler au public français, c'est grâce à la loi 101 qu'il l'a francisé, Sugar Sammy. Et en France, est-ce qu'il reproche aux Français de vouloir protéger leur langue? Non. Pourquoi il nous reproche ça à nous, au Québec? C'est tout le temps la même affaire. Puis la CAQ, là, ce qu'ils ont fait, là, ils savent, là, ils arrivent avec une nouvelle mouture de la loi 101, puis ils veulent avoir la communauté anglophone de leur bord, puis ils veulent montrer qu'ils sont pas si méchants que ça. Fait qu'on va donner un gros cadeau, on va agrandir dans regardez, on vous a donné un cadeau. Maintenant, laissez-nous, s'il vous plaît, défendre notre loi française. Il faut tout le temps, s'excuser de vouloir défendre notre culture.
C'est un cadeau empoisonné parce que là, ce qu'on est en train de faire, Frédéric Lacroix, si je me souviens bien, qui étudie beaucoup les questions linguistiques, il me semble que c'est lui qui disait, ou non, c'est pas vrai, c'est hier, Mathieu Bock-Côté, dans son entrevue avec La Plante du magazine L'Action nationale, qui disait, là, maintenant, à Montréal, avec Dawson, il va y avoir plus d'enseignants collégiales anglophones qui vont en avoir francophones. Puis sur le nombre total de jeunes qui fréquentent les instituts collégiales, si c'est pas ça, financer, préparer sa propre assimilation, je ne sais pas c'est quoi. Mais voilà, et on dirait que moi, j'écoute Pierre Falardeau, j'écoutais toute son entrevue qui dure 15 minutes, puis je me disais, mais c'est comme si, des fois j'ai l'impression qu'on a les deux pieds là-dedans, comme si on avait abandonné. Il me semble que, je sais pas, il devrait y avoir une levée de bouclier absolument phénoménale quand on se rend compte que le parti qui est supposé d'être nationaliste, de défendre les intérêts nationalistes du Québec, ben, il va comme ça sous-traiter sa propre assimilation, au bien, puis à l'onde de quelques appuis électoraux pour sa prochaine réélection. Il y a quelque chose là-dedans qui est fondamentalement insultant, je trouve.
Ça va même au-delà de ça, là. C'est même plus gros que ça comme problème, Steve. J'interviewais Yves Desgagnés, l'homme de théâtre au Franc-Tireur, puis il me disait, tu sais, les jeunes savent même plus c'est qui Michel Tremblay. On leur enseigne même plus c'est qui Michel Tremblay. Ils savent pas. Ouais. Il y a une rupture, là. Il y a une génération, puis c'est pas de leur faute parce que ils sont le résultat de notre système d'éducation, puis de laisser faire, puis laisser aller. Mais, tu sais, c'est comme, est-ce qu'ils connaissent c'est qui Gauvreau? Est-ce qu'ils connaissent c'est qui, non, ils connaissent pas. Donc, on dirait qu'on s'en fout de notre culture, de notre langue, des personnages qui ont été importants chez nous.
Ben c'est je veux dire, quand on regarde les dernières décennies, je veux dire, on a eu de la difficulté, on a carrément abandonné la francisation des immigrants, des nouveaux arrivants. L'enseignement d'une histoire nationale est devenu quelque chose de problématique. Certains y voyaient même une manière, si on veut, de faire de la politique. Moi, j'ai suivi les représentations à un moment donné à l'Assemblée nationale parce qu'on débattait de ça. Puis il y avait des profs d'histoire qui disaient non, on peut pas enseigner une histoire conflictuelle. Je veux dire, où dans le monde, les gens vont essayer de tempérer, d'atténuer leur histoire pour s'assurer que si on enseigne l'histoire aux prochaines générations, on va en faire des petits indépendantistes. Il y en a des historiens qui ont dit ça, qui ont dit si les Québécois connaissaient, si les jeunes Québécois connaissaient leur histoire nationale, ben on en ferait des indépendantistes. Ben si c'est à ça que ça mène, je veux dire, de toute façon, refuser d'enseigner son histoire, refuser de sensibiliser les jeunes à leur appartenance à la nation, ça a aussi d'autres conséquences. On le voit dans le Devoir. Il y a Nadeau dans le Devoir qui s'inquiète tout le temps de voir ce qu'on fait au patrimoine québécois. Tu sais, il y a des maisons, là, des maisons des patriotes sur le. On va démolir.
Non,
ça.
Les races ben raides.
C'est comme si ça c'était pas important, mais il y a une conséquence à ça. C'est ça que je vois moi dans les propos de Pierre Falardeau. Il nous le rappelle ça. Tu sais, à un moment donné, si on abandonne, ben on va faire table rase aussi de notre histoire, de nos fondements même, de qui on est comme nation. À un moment donné, on peut même se demander est-ce que il y a une proportion critique de Québécois qui trouve qu'on ne forme même plus une nation, puis qu'on devrait simplement se fondre dans le Canada, puis une fois pour toutes dire ben voilà, l'assimilation est faite, puis n'en parlons plus le 24
juin. C'est ça,
notre drapeau pour se rappeler du bon vieux temps.
Mais tu as raison, il y a des Québécois francophones, il y a des Canadiens français qui se voient comme une ethnie parmi tant d'autres, une des nombreuses ethnies qui forment le Canada, alors que c'est pas ça, un peuple fondateur, faut pas l'oublier, maudit.
Ben, si on arrête d'enseigner l'histoire, ou en tout cas, si on ne fait pas le travail qu'on a à faire à titre de nation, de perpétuer ça dans l'histoire, dans le temps, puis aux générations qui suivent, ben, il va nous manquer quelque chose, parce que cette espèce de décor-là qui se crée, ben, il va y avoir des conséquences à ça à un moment donné. Puis, tu sais, je sais pas, moi, dans ma vie personnelle avec mes enfants, tu sais, je me fais un devoir qu'on sache ça. Il y a des livres ici, j'explique. Puis, tu sais, c'est ça, j'écoutais justement, hier, je l'ai écouté plusieurs fois, puis à un moment donné, ma plus jeune passe, puis elle voit ce drôle d'hirsute-là, tu sais, puis le setup de tout le monde en parle, ben oui, c'est Pierre Falardeau, puis, tu sais, je vais leur expliquer, et je l'ai fait aussi, j'étais jeune, là, ça, c'est drôle, Richard, quand j'étais plus jeune, mes enfants étaient, ma plus petite était bébé, j'avais le documentaire, je me l'étais fait venir en VHS à l'époque, j'avais le documentaire de la nuit de la poésie de 1960.
Oui, avec Speak White.
Oui, mais il y avait, tu sais, au début, il y avait, bon, l'infonier Raoul Duguay qui arrivait sur son tricycle avec une boîte de jeu, avec un texte écrit à l'envers. C'était le jeu Opération, la première mouture à l'époque avec les petits... écoute, puis là, tu sais, c'est tout drôle, tout ça. Puis moi, ma fille était assise avec moi, tu sais, elle avait peut-être 2 ans, je sais pas. Puis on regardait ça, puis elle trouvait ça bien drôle. Claude Gauvreau qui vient à un moment donné, puis on était rendu plus vieux, puis là, ben, qu'est-ce qu'il dit? Mais il disait rien. Claude Gauvreau, il faisait de la poésie non figurative à ce moment-là, tu sais, il inventait le langage. Puis, je sais pas, ça, on baigne là-dedans, mais ça devrait être comme ça dans notre système scolaire aussi.
Oui, ça devrait être comme ça dans notre système scolaire. Malheureusement, c'est pas comme ça. Écoute, un autre gang qui me met en beau maudit, c'est l'agence France-Presse. Qu'est-ce qui leur a passé dans la tête?
Écoute, quand j'ai vu passer ça, moi je l'ai vu dans Marianne, puis je vais le partager tantôt pour le bénéfice des gens qui nous suivent, qui nous écoutent. L'agence France-Presse a refusé de signer, d'être parmi les centaines de personnes qui ont appuyé la lettre pour la liberté d'expression dans le cadre du procès de Charlie Hebdo. Soit dit en passant, on fait des mises à jour, toi et moi ensemble. Hier, on était encore dans les témoignages sur l'hyper cachère. C'est
ben
absolument,
oui.
c'est difficile à lire. En tout cas, fait que là, ce qui s'est passé, c'est que les gens, les boss à l'agence France-Presse ont dit, nous, on veut pas signer ça parce que ça pourrait mettre en danger si on appuie. Ça pourrait mettre en danger certains de nos correspondants qui sont au Moyen-Orient. Si on voulait créer par l'exemple la nécessité absolue de signer ça, c'est ça, c'est exactement ça. Ben l'autocensure. Non, on veut pas signer ça parce que si on signe ça, ben il y a des correspondants chez nous au Moyen-Orient qui seraient en danger parce que dans certains pays, disons-le, où l'islam est un projet politique, ben ils pourraient être assassinés ou on pourrait s'en prendre à eux. Ben voilà, signez-la. Et le syndicat des journalistes de l'AFP a émis un communiqué et une réaction absolument virulente, puis il disait, mais voyons donc, on aurait dû signer ça. Et c'est ça, donc à la fin, là, on dit donc la volonté de ne pas mettre ses équipes en danger dans les pays musulmans où ce droit est considéré comme une provocation. L'AFP défend avec force la liberté d'expression, mais les signataires de cette lettre ouverte ne sont pas aussi exposés que nous dans ces pays. Oui, mais nous, nos gens vont être exposés, mais le syndicat a répondu, ben non, justement, il faut la signer parce que cette liberté d'expression-là, c'est ça qui nous fait vivre, c'est ça qui nous permet, nous, ensuite, de pouvoir dire au monde exactement ce qui se passe là-bas. Sinon, c'est comme si on imposait une limite à leur propre liberté d'expression.
Attends une minute, le correspondant étranger en Arabie Saoudite ou en Iran, il est français? C'est un Français d'abord, donc il doit défendre les valeurs françaises, il ne doit pas se soumettre aux valeurs du pays qu'il couvre.
Ben, voyons. Ce que ça me dit, quand j'ai lu ça, moi, ce que ça me dit, c'était, bon, ben, la personne qui est là-bas, c'est quoi le message qu'on envoie aux correspondants de l'agence France-Presse, par exemple, qui est en Arabie Saoudite, ou je ne sais où, ben, lui, il va dire, écoute, c'est vrai, faudrait peut-être que je fasse attention de pas trop froisser les gens. Ben, c'est pas ça qu'on veut savoir. L'Arabie Saoudite est en conflit perpétuel avec le Yémen. On veut savoir ce qui se passe exactement sur le terrain, sans aucune forme de censure, quelle qu'elle soit. Et là-dessus, en tout cas, moi, je voulais souligner la réaction du syndicat de l'agence France-Presse. Et eux ont émis quand même un communiqué pour dire, nous, on est tout à fait derrière cette initiative-là. Donc, c'est les patrons de l'agence France-Presse qui se sont trouvés isolés.
Oui.
Au moins, les journalistes, eux, ont corrigé ça. Le syndicat des journalistes a corrigé ça. Puis ont dit, non, nous, on est tout à fait derrière cette initiative-là.
Écoute, qu'est-ce que tu penses de Marguerite Blais? Il y a des gens qui disent qu'elle est trop critique envers son chef, là.
Je viens de publier un texte là-dessus. Je me suis dit non, je vais revenir à ça. Savais-tu, moi je le savais parce que j'avais écrit là-dessus, ça m'avait tellement étonné, puis j'avais fait une longue entrevue avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Il était candidat dans Prévost contre elle. Le 8 avril 2018, Marguerite Blais, qui habite le comté de Prévost, se présente comme ça. Elle va à la soirée d'investiture de la candidate libérale Naomi Goyette. Elle a été choisie par le Parti libéral. C'est elle qui va être la candidate pour le Parti libéral dans Prévost. Elle est là-bas, tout sourire. Puis Marguerite Blais pose avec sa famille politique, tout ça. Bon, pas de problème. Le 8 mai, un mois plus tard, Marguerite Blais, tout à coup, elle a parlé avec François Legault, puis elle a dit, tiens, je vais être candidate dans Prévost. Fait que là, elle va se présenter contre la candidate libérale qu'elle avait pourtant appuyée lors de son investiture. Et là, ce qui était le plus drôle là-dedans, c'est que à un moment donné, pendant l'été, elle fait les shows d'été, elle est candidate de la CAQ, tout ça, puis elle se trouve à l'émission de Jean-Philippe Vautier, Le Beau Dimanche. Et elle est là, puis elle parle, elle dit, non, moi j'avais quitté mon parti, ça fait 3 ans que j'ai quitté mon parti, ça fait tellement longtemps, donc je peux bien avoir un autre chum. Elle ironisait là-dessus.
Mm-hmm.
C'est drôle, parce que cette journée-là, moi, pendant qu'elle passait à cette émission-là, j'étais sur le compte Twitter, la page Facebook de Naomi Goyette, la candidate libérale, puis dans ses photos, si on veut, pour se représenter, on voyait toute sa famille politique, puis t'avais Marguerite Blais qui était là tout sourire. Pour moi, là, ça a toujours été une gaffe monumentale de la CAQ que de prendre cette personne-là en son sein. Elle n'avait pas sa place là. Véronique Yvon, quand elle avait appris au mois de mai 2018 que Marguerite Blais s'en allait à la CAQ, elle avait dit, ben voyons, il me semble que ça fait pas en tout. Elle va dans le même parti qu'Yuri Chassin de l'Institut économique de Montréal. On a toujours vu Marguerite Blais comme quelqu'un plus à gauche. Ça n'a pas pris, puis là, il en paie le prix.
Mais écoute, mais tu vois aussi que, tu sais, la CAQ, c'est une coalition, hein? Il y a toutes sortes de monde là-dedans, puis on le voit qu'il y a des libéraux aussi qui sont dans la CAQ, puis il y a des nationalistes, puis c'est un parti arc-en-ciel.
Ben, c'est un parti arc-en-ciel, mais ça a des limites, et là, on le voit bien. Elle ne s'est pas embêtée de la solidarité ministérielle, Marguerite Blais. Elle a lancé, comme on dit, elle a lancé en dessous du boss l'autobus Horacio Arruda, François Legault. Mais on devait s'attendre à quoi? Et hier, à l'émission L'Ajoute, Amir Kadir, il a été très dur envers elle, mais je trouvais qu'il était juste. C'était le cas de 2007 à 2012. Elle n'a jamais pris ses responsabilités. Les aînés, ça relevait pas d'elle, ça le relevait de quelqu'un d'autre. Et encore aujourd'hui, donc, c'est la faute de quelqu'un d'autre, mais Amir Kadir,
c'est tout le temps
qu'elle fait en politique, elle devrait tout simplement démissionner et rendre service à tout le monde.
Ben oui, tout à fait. C'est toujours la faute des autres, c'est jamais sa faute à elle. C'est parce que,
mais c'est
parce
quand on dit coalition à la CAQ, là, c'est la même chose en ce moment avec ce qui se passe dans le dossier Dawson, puis McGill, puis tout ça. Là. Faut pas penser que tout le monde est content. Puis il y en a des gens à la CAQ qui sont vraiment mécontents de voir que le parti fait ça, parce qu'il va avoir un coup politique à ça. Et on le voit pas encore maintenant, mais moi, je peux vous dire une chose. Tout à coup, François Legault a ouvert une très, très grosse brèche pour que des gens l'attaquent sur son angle nationaliste, celui qui lui a permis...
En tout cas, il vient de donner un beau cadeau au PQ, ça, c'est sûr et certain. Bon week-end, Steve.
Oui, salut.
Merci, Steve Fortin.